Notre application Java 7 est à présent complète. Nous avons donc un module JPA, un module JB, un module Service REST et un module JSF. Nous allons maintenant déployer cette application dans l'environnement de production Microsoft Azure. Notre environnement de travail complet est composé des éléments suivants. Un IDE, nous avons choisi Eclipse, qui est dans l'univers Java l'IDE le plus utilisé. La distribution d'Eclipse que l'on utilise est la distribution Java EE version Luna, qui est la dernière version disponible à l'heure de cet enregistrement. Nous avons besoin d'un plugin Eclipse particulier, qui est le plugin Azure, que l'on peut télécharger à cette URL. Et nous avons également besoin d'un serveur d'application, d'un serveur runtime, Glassfish 4, que l'on peut télécharger séparément et déployer sur notre poste local, et qui nécessite également l'installation d'un plugin Eclipse que l'on télécharge au travers de ce que l'on appelle l'Eclipse Marketplace. On a également besoin d'un deuxième élément technique sur notre poste de développement, qui est le SDK Azure, qui s'installe au travers du web, très simplement, à l'URL suivante. À titre de référence, on peut également aller visiter avec intérêt le GitHub Eclipse Azure sur lequel on peut trouver l'ensemble des patterns de code Java exploitables sur Azure pour une application Java. Une fois notre SDK Azure installé, on a la confirmation par cette fenêtre de dialogue qui nous indique en fait l'ensemble des éléments logiciels installés sur notre poste de développement. On a également besoin d'un compte Azure. Comme l'ensemble des fournisseurs d'accès cloud, Microsoft propose une solution gratuite de test, limitée à un mois et avec un crédit en numéraire de 150 euros pour pouvoir déployer des applications, les héberger, accéder à des données structurées en base et à des blobs. Dans le cadre des tests de l'application que l'on vient de développer, 150 euros est un budget absolument gigantesque. Il y a des chances qu'on ne l'écorne que très peu. La première chose à faire avant de penser à déployer notre application Java EE dans l'environnement Azure consiste à télécharger le SDK Azure pour Java, qui est un logiciel qui s'installe sur Windows. Pour cela, on se connecte au site azure.microsoft.com. On clique sur le lien Téléchargement, puis sur le lien Installation Windows pour Java. Et on obtient cette page qui est en fait le point d'entrée à la fois des téléchargements et des documentations qui concerne le déploiement d'applications Java dans l'environnement Azure. Notons que tous ces outils sont open source et libres de droit, distribués sous licence Apache 2.0. Les bibliothèques sont également compatibles Maven, ce qui pour un développement Java est un réel intérêt. On a également le lien vers le plugin Eclipse que nous allons devoir installer dans Eclipse, et également le lien vers le SDK Microsoft Azure pour Windows en Java. Nous allons donc télécharger ce SDK, puis l'installer. Et en fin d'installation, l'installeur nous indique les différents éléments qui ont été installés sur notre poste. Bien, nous disposons à présent d'une première application Java EE de structure très simple avec ses différents modules JPA, EJB, Service REST et interface web JSF. Nous avons déployé cette application en local sur un serveur Glassfish installé sur notre poste de développement, lui-même adossé à un serveur de base de données MySQL. Nous souhaitons à présent déployer cette application dans l'environnement Microsoft Azure, sachant que nous disposons déjà d'un compte Azure et d'un certain nombre d'éléments qui sont déjà configurés. La première étape de ce déploiement consiste à installer le plugin Microsoft Azure pour Eclipse. Cela passe par l'installation d'un plugin de façon standard dans Eclipse. L'URL d'installation est la suivante, dl.msopentech.com/eclipse. Le plugin Azure est lui-même composé d'un certain nombre de modules que nous allons tous installer dans Eclipse. Eclipse demande un redémarrage une fois le plugin installé, ce qui est classique. Une fois l'installation du plugin réalisée, on constate qu'un certain nombre d'icônes supplémentaires ont été installées dans notre barre d'action et que des options supplémentaires sont également disponibles au niveau du menu. Si l'on passe dans la perspective Java EE et dans la vue Project Explorer, on voit que sur notre projet Java EE, nous avons une option supplémentaire Azure qui va nous permettre de packager ce projet Java EE pour un déploiement dans Microsoft Azure. Comment le déploiement dans Microsoft Azure va-t-il se réaliser? En fait, il se réalise en plusieurs temps. Il consiste dans un premier temps à packager notre serveur d'application. Dans notre cas, il s'agit donc de GlassFish, et à uploader ce serveur d'application packagé dans le cloud Microsoft, puis ensuite à packager notre application proprement dite et à déployer cette application packagée dans le serveur d'application que nous avons uploadé au préalable. Cela nécessite un peu de configuration au niveau du serveur d'application que nous utilisons. Nous avons une première version de GlassFish qui est configurée pour fonctionner en local sur notre poste de développement. Il nous faut une deuxième installation destinée purement à être déployée sur le cloud Microsoft. Cette deuxième installation de GlassFish doit être configurée de façon particulière pour pouvoir fonctionner correctement sur le cloud Microsoft Azure. Tout d'abord, elle doit être capable de se connecter à une base SQL Server et pour cela, elle doit donc posséder le driver JDBC de Microsoft SQL Server. Cette configuration est assez simple à faire puisqu'il suffit de copier le jar contenant ce driver JDBC dans le bon répertoire de GlassFish. Ce jar se télécharge à l'URL suivante. Le téléchargement du jar ne prend que quelques secondes. Nous allons télécharger la version tar.gz qui pourra être utilisée directement dans notre serveur GlassFish. De la même façon que pour le driver MySQL, on peut copier ce jar dans le répertoire lib de GlassFish, auquel cas il sera disponible pour toutes les applications de tous les domaines eux-mêmes déployés dans GlassFish ou localement au domaine que nous allons utiliser. La deuxième chose que nous devons configurer est la possibilité d'accéder à l'interface d'administration de GlassFish que nous avons déjà utilisée pour notre poste local. Cette interface est accessible au travers d'un port particulier qui est le port 4848. Ce port va donc devoir être ouvert et être redirigé lorsque nous allons déployer notre serveur GlassFish, mais il doit aussi être configuré pour que l'on puisse y accéder de façon remote. Par défaut, ce port ne répond qu'aux requêtes émises en local du poste de développement donc sur localhost. Là, nous allons déployer notre serveur Glassfish en délocalisé sur le cloud Microsoft Azure. Donc, il faut expliquer à Glassfish que ce port doit également écouter les requêtes en provenance d'autres machines que la machine locale. L'ouverture du port 4848 aux requêtes remote se fait directement au niveau de Glassfish et sur un Glassfish qui est déjà lancé en émettant les bonnes commandes vers le serveur d'application. Donc, dans un premier temps, nous devons lancer Glassfish en ligne de commande, asadmin start-domain, puis lancer la commande asadmin change admin password. Effectivement, par défaut, cet IHM n'est protégé par aucun mot de passe, donc nous allons commencer par établir un mot de passe pour s'y connecter. Cette politique de sécurité est très basique et en fait assez peu sécurisée. On peut également mettre en place une politique un peu plus forte à base de certificats. Donc s'ensuit un dialogue qui nous permet de changer ce mot de passe. Une fois que ce mot de passe est changé, il y a encore une commande magique à entrer. Enable secure admin. Et cette fois-ci, notre serveur Glassfish est configuré pour accepter les requêtes remote sur le port 4848. Nous allons maintenant éteindre Glassfish de sorte que cette configuration soit bien enregistrée dans ces fichiers de configuration, ce qui est fait à présent. On peut à présent créer ce projet de packaging de notre application Java EE en prenant bien garde d'être bien dans la vue Project Explorer et non pas Package Explorer. On sélectionne notre projet Java EE, Azure Package for Azure. Cette option Azure ne va pas apparaître dans le menu pop-up qui se trouve dans la vue Package Explorer. Donc s'il n'apparaît pas, c'est que nous ne sommes pas dans la bonne vue. Package for Azure, nous allons appeler notre projet Glassfish Java EE Azure. Next. Ensuite, le plugin nous demande un certain nombre de paramètres, à la fois pour un déploiement en local en mode émulation et pour un déploiement dans Azure. Le premier élément est la machine Java que nous allons utiliser pour l'émulateur qui fonctionne en local sur notre poste. Et le second est la machine Java utilisée pour le déploiement dans Microsoft Azure. Si l'on sélectionne la même machine Java, cette machine Java sera packagée et sera uploadée sur le cloud Microsoft, donc sur Azure. C'est un déploiement supplémentaire et un upload supplémentaire. Et il s'agit surtout d'une machine Java qui, a priori, n'est pas qualifiée pour fonctionner sur l'infrastructure Azure. Donc on préférera utiliser une machine Java disponible sur Azure, d'autant que, comme on le constate, les versions de Java disponibles sur le cloud Azure suivent de très près la sortie des versions Java disponibles pour le développement en local. Ensuite, il nous faut indiquer quel compte de stockage Microsoft Azure va devoir enregistrer le package à la fois de notre serveur d'application, en l'occurrence Glassfish, et de notre application Java EE. Pour l'instant, nous n'avons rien configuré au niveau de notre compte Azure. C'est donc le moment de le faire. On repasse donc sur le tableau de bord de gestion de notre compte Azure. On va donc créer un compte de stockage avec ses coordonnées par défaut. On va l'appeler deploy puisque ce compte va enregistrer les éléments nécessaires au déploiement de notre application. La création prend quelques secondes. Une fois que notre compte de stockage est prêt, on peut aller chercher les clés d'accès de ce compte. Voici le nom du compte. On va donc pouvoir le copier dans les comptes de stockage indiqués ici et la clé d'accès que l'on copie-colle à cet endroit. Une fois ce compte de stockage créé et configuré, on passe à la configuration du serveur. Le SDK nous demande d'accepter la licence d'utilisation de la machine virtuelle Java Azul. La configuration du serveur se fait également en deux temps. D'une part, la configuration du serveur local qui va être utilisé pour l'émulation. Le plugin Azure est capable de reconnaître automatiquement une installation de GlassFish et le serveur qui va être utilisé pour le déploiement. En fait, ici, on conserve cette option « Déployer le serveur local vers le cloud ». Ce déploiement va donc se faire en deux temps. D'une part, le packaging de notre serveur local, son upload dans un blob et dans un deuxième temps, le déploiement dans le cloud Azure. Et enfin, troisième temps, la configuration de notre application. Cette application est déjà configurée dans la mesure où nous avons sélectionné le bon projet web pour le déploiement de notre application. On peut encore fixer un certain nombre de paramètres que nous allons laisser à leur valeur par défaut dans le cadre de cette démonstration. Un projet supplémentaire est donc créé au niveau d'Eclipse. On peut regarder ce que contient ce projet. Un fichier ANT qui va en fait gérer le packaging et l'upload vers l'infrastructure Azure et un certain nombre d'éléments de déploiement, les certificats notamment, dont la sécurité a besoin. On a également deux fichiers de configuration qui sont en fait des fichiers XML. Le premier, service configuration, s'occupe de sécurité. Et le second, service définition, lui configure le serveur que nous allons déployer. Nous allons modifier ce fichier car rappelons-nous que nous voulons ouvrir le port 4848 sur un de nos ports locaux de façon à pouvoir administrer notre installation de GlassFish. On peut le faire par IHM, mais probablement le plus simple est directement d'éditer ce fichier. On ouvre donc le port GlassFish 4848 vers un port qui peut être par exemple 8048 sur notre poste local et nous allons appeler cette configuration http-admin puisqu'il s'agit du port d'administration de l'IHM de GlassFish. Avant de procéder au déploiement proprement dit, nous allons faire une dernière vérification au niveau de notre projet Java EE afin d'être certain qu'il va se packager correctement. Pour cela, nous allons regarder ses propriétés, sélectionner l'option Deployment Assembly et vérifier que notre projet modèle qui contient les classes de notre modèle est bien déployé dans le WebInf Lib sous forme de jar. Pour déployer une application web dynamique dans Microsoft Azure, il nous faut encore au moins un élément et en fait un deuxième élément également. D'une part, un service de cloud qui est en fait un service d'hébergement de sites web dynamiques. On peut créer ce service de cloud à la volée dans le plugin Eclipse, mais il me semble plus pertinent de le faire au niveau du tableau de bord Azure, puisque c'est également à partir de ce tableau de bord que l'on va gérer nos applications dans un contexte de production. On crée donc ce service de cloud computing, accessible par exemple via l'URL JPOMAR. Conservons tous les paramètres par défaut. Ce service de cloud computing se crée en quelques instants. On repasse dans Eclipse et on va pouvoir à présent déployer notre application Java EE dans ce service de cloud computing. Évidemment, lors du premier lancement de ce wizard de déploiement, aucune des options n'est renseignée. Nous allons donc simplement importer un fichier téléchargé à partir du portail Azure et qui va nous permettre de le configurer automatiquement. Le téléchargement démarre automatiquement. On enregistre ce fichier de façon classique et on va pouvoir à présent le charger directement dans Eclipse de sorte que les choses se configurent toutes seules. Notre abonnement est donc bien sûr une version gratuite dans le cadre de cette présentation. Le compte de stockage qui va être utilisé pour enregistrer notre configuration de GlassFish et notre application web a bien été reconnu et le service de cloud computing que l'on vient de créer a également été correctement configuré. On constate qu'effectivement, on peut créer à la volée à la fois un service de stockage et un service de cloud computing directement à partir d'Eclipse. Dans un premier temps, nous allons déployer notre application en mode staging, qui est un mode intermédiaire qui permet de faire des tests, mais déployer tout de même en vraie grandeur sur le cloud Azure. Lançons la publication de notre application. Le plugin Azure va donc générer les différents packages. Là, on observe le script ant package.xml qui est en train de s'exécuter. Le premier zip est créé, qui contient notre déploiement GlassFish. Et ce zip va être uploadé dans un blob de notre compte Azure qui est bien sous JPOMAR Deploy. Une fois l'upload de notre package GlassFish terminé, le plugin Azure nous ouvre cette nouvelle vue, Azure Activity Log, qui suit le déploiement de notre application web sur le cloud. Lorsque le statut de ce déploiement passe à Published, cela signifie que notre application est prête, déployée sur le cloud, et que donc on peut cliquer sur ce lien pour constater que notre serveur GlassFish est bien en train d'être exécuté. Notre serveur GlassFish est donc maintenant correctement déployé sur le cloud. Passons donc à la console d'administration pour le configurer. Alors, malheureusement, le lien qui est proposé sur cette page d'accueil n'est pas actif puisqu'il va nous rediriger vers localhost 4848 qui n'est pas l'installation de GlassFish que l'on souhaite administrer. Rappelons-nous que nous avons redirigé le port 4848 vers notre port local 8048 sur lequel nous pouvons donc faire une requête qui va nous amener à la console d'administration de GlassFish. On saisit donc les identifiants de l'administrateur et rapidement notre console d'administration s'affiche. La première chose que nous devons faire est la configuration de la connexion à notre base de données, puisque GlassFish est toujours dans sa configuration par défaut. Nous allons donc commencer par effacer ce pool de connexion Derby dont nous n'avons pas besoin et créer un pool de connexion vers une base SQL Server hébergée dans l'environnement Microsoft. Dernier élément dont nous avons besoin pour notre hébergement cloud, une base de données SQL à laquelle notre application Java EE va pouvoir s'adresser. La création de cette base se fait en deux temps et au travers du tableau de bord de gestion de notre compte Microsoft Azure. Nous allons commencer par créer un serveur de base de données SQL. Le nom de connexion sera Musician User. Le mot de passe, bien sûr, n'apparaît pas. Et sélectionnons Europe de l'Ouest pour notre hébergement. Notre serveur de base de données SQL va donc se créer en quelques secondes. À l'intérieur de ce serveur, nous allons pouvoir créer des bases de données. par exemple une base musician data. Le niveau de service dont nous avons besoin est un niveau de service très basique et avec peu de données, et nous allons l'héberger dans le serveur que l'on vient de créer. La création de notre base de données a maintenant eu lieu. Profitons-en pour aller chercher les quelques informations dont on a besoin pour connecter notre pool de connexion GlassFish à cette base de données. Les informations sont en fait accessibles directement au niveau de la base de données. Le nom du serveur est celui-ci et le port d'accès est le port 1433. On peut donc copier-coller ces informations car nous en aurons besoin pour configurer GlassFish. Configurons à présent notre pool de connexion vers la base de données SQL Server que nous avons créée au travers de notre interface d'administration de notre compte Azure. Ce pool de connexion, appelons-le Musician Pool. Il s'agit d'une ressource de type qui s'adresse à une base Microsoft SQL Server. Le nom de la classe de cette source de données est automatiquement configuré. Il ne reste plus qu'à configurer les différentes options dont JDBC a besoin pour se connecter à notre base. Le nom d'utilisateur est celui que nous avons déclaré, Musician User. L'URL du serveur comporte le nom du serveur que nous avons lu dans l'IHM d'administration de notre compte Azure. On la copie-colle donc ici. Le port était le port 1433. On ajoute ici également notre mot de passe qui cette fois-ci va s'afficher en clair. Le nom de notre base de données était Musician Data. Le nom du serveur est celui-ci. Et nous avons besoin de trois propriétés supplémentaires qui sont propres à la connexion à une base SQL Server. La première de ces propriétés est Encrypt, qui doit prendre la valeur True. La deuxième de ces propriétés est le Login Timeout, que nous allons mettre à 30, car il s'agit d'une connexion cloud gratuite, donc les choses ne sont pas forcément spécialement rapides. Et la dernière de ces propriétés est Hostname in Certificate, à laquelle nous devons passer la valeur étoile.database.windows.net. Cliquons sur Finish pour créer ce pool de connexion. On peut immédiatement tester notre pool en cliquant sur Ping ici. La connexion entre GlassFish et notre base SQL Server est donc correcte. Il reste toutefois un élément à configurer qui n'est propre ni à GlassFish, ni à SQL Server, ni au déploiement cloud, mais qui est une sécurité que l'on peut placer et qui va permettre aux choses de fonctionner correctement. Effectivement, un pool de connexion JDBC va fonctionner de la façon suivante. Il va créer un certain nombre de connexions à l'avance, en avance de phase par rapport aux demandes de notre application Java EE, et maintenir ces connexions ouvertes un temps a priori indéfini. Il est possible que du côté de la base de données, ces connexions soient fermées par la base de données au bout d'un certain temps, au bout d'un certain timeout. Ces choses sont raisonnables. Le problème est que JDBC par défaut n'est pas informé de cette fermeture, n'est pas informé que la connexion qu'il est en train d'utiliser pour passer des requêtes a en fait été fermée du côté de la base, et cela va donc créer une erreur, une exception SQL qui va finir par apparaître dans notre application ou qui, au minimum, va faire qu'elle va fonctionner en mode dégradé. Ce genre de choses intervient assez fréquemment, quelle que soit la base de données que l'on utilise, et une façon d'éviter Le problème est d'activer ce mécanisme de validation de connexion avant l'utilisation de chaque connexion. Donc ici, dans cette partie de l'IHM, on va dire que la validation des connexions est requise. Et ici, sélectionner Custom Validation qui va déléguer en fait à GlassFish la validation de ces connexions. Si jamais une connexion est en échec, on peut dire à GlassFish de fermer en fait l'ensemble des connexions. Il y a toutes les chances pour que les autres soient également en échec. Sauvegardons donc cette modification. Et passons à la deuxième étape de la configuration JDBC, qui est la configuration d'une source de données JDBC, que l'on va appeler JDBC/MusicianDS, appuyer sur le pool de connexion MusicianPool. Cette source de données sera donc disponible auprès de notre application sous le nom JDBC/MusicianDS. À ce stade, notre serveur GlassFish est donc prêt à recevoir notre application web que nous allons pouvoir déployer en utilisant cette interface d'administration. Avant de créer le WAR de déploiement, nous allons vérifier deux points. Premièrement, que le fichier persistance.xml est correctement configuré. L'élément de configuration que nous devons vérifier est qu'il s'adresse bien à la data source que nous avons créée dans GlassFish. Et d'autre part, que le mode de génération de la base de données est bien ici à none, de sorte qu'elle ne soit pas effacée en production. Nous pouvons maintenant exporter notre projet dans un fichier WAR que nous allons ranger dans le répertoire build de notre projet Java EE et que nous allons appeler MVA Java EE.war. Notre fichier a bien été créé. On va pouvoir à présent le déployer dans GlassFish. Dernière étape, la création du schéma de notre base de données, c'est-à-dire de la structure de table. JPA est capable de créer le schéma par lui-même, mais en configuration de production, ça n'est pas une option qu'il est très conseillé d'utiliser. Il vaut mieux la réserver pour la configuration des bases de test ou des bases de développement. Donc, quand nous avons fait notre test, nous avons configuré JPA pour enregistrer le script SQL de création de notre schéma dans un fichier que nous allons pouvoir utiliser. Donc, sélectionnons notre base de données, Musicien Data. Le lien Concevoir votre base de données SQL va nous permettre d'accéder à une interface de saisie de requêtes SQL. Notre nom d'utilisateur est Musician User et notre mot de passe, celui que nous avons déclaré lors de la création de notre base. Nous arrivons donc à l'interface d'utilisation de notre base. On peut ouvrir l'IHM de saisie de nos requêtes SQL ici et à partir de là, simplement copier-coller les requêtes de création de notre schéma. Exécutons ces requêtes. Évidemment, si nous avions 200 tables à créer, nous aurions pu passer ce fichier SQL directement et le faire exécuter directement. Nous allons donc à présent déployer le WAR que nous avons créé dans Eclipse. Pour cela, retour à l'IHM d'administration de GlassFish. Nous cliquons sur le bouton Deploy. Nous allons aller chercher ce WAR dans le répertoire du projet dans lequel il se trouve, répertoire build, sélectionner le fichier WAR, l'ouvrir et l'uploader dans GlassFish. Ce WAR ne fait que quelques dizaines de cas étant donné qu'il n'y a pratiquement rien dedans et donc son déploiement est évidemment très rapide. Notre application web est disponible au travers de cette URL en mode HTTP et non pas HTTPS, non plus sous le port 8048 qui est le port de redirection de notre IHM d'administration, mais directement sous le port 80 et sous une URL qui est en fait le nom de notre application web, qui est le nom par défaut puisque nous n'avons pas configuré ce nom au niveau de Glassfish. Et dans la mesure où nous avions créé une page JSP qui nous donnait l'heure, c'est cette page ici qui va s'afficher, qui est bien dynamique puisque lorsque l'on rafraîchit cette page, on a bien la date qui évolue. Pour accéder à notre application JSF, il faut faire la requête vers index.xhtml et là nous avons bien notre IHM musicien qui apparaît. On peut créer un musicien, par exemple Eric Clapton, joueur de rock, création, puis un second, Louis Armstrong, joueur de jazz bien connu, création, puis un troisième, Franz Schubert, musicien plutôt classique, et vérifier que ces trois musiciens ont bien été créés dans notre base de données SQL Server. On peut récupérer les documents XML associés par interrogation de notre service REST au travers du lien que nous avions ajouté sur notre grille. Et si l'on souhaite effacer Eric Clapton, juste cliquer sur le bouton Effacer. Notre application Musicien est donc bel et bien opérationnelle sur le cloud Microsoft Azure au prix d'un peu de configuration de notre serveur Glassfish et du déploiement de notre application web packagée dans un WAR via l'IHM d'administration de Glassfish. Donc nous avons à présent une application Java EE7 qui fonctionne dans Glassfish, hébergée sur le cloud Microsoft Azure et qui répond à des requêtes. On souhaite se poser la question à présent de la problématique du stockage de données non structurées dans le cloud et nous allons prendre l'exemple d'image. Dans le cloud, il faut comprendre que le stockage de fichiers ou de données structurées ne se passe absolument pas comme sur un serveur personnel de type serveur de test ou de développement ou sur un serveur d'entreprise qui serait hébergé dans les locaux de l'entreprise. Et notamment, le principal problème dont nous allons parler à présent est le problème de stockage de fichiers sur le système de fichiers. Quand on est sur un poste local ou sur un poste personnel, le système de fichiers est parfaitement identifié. Il s'agit du disque qui se trouve dans la machine ou éventuellement d'un disque auquel on accède au travers du réseau. Quand on est sur un déploiement cloud, le système de fichiers est quelque chose qui, a priori, n'est pas défini. Si on est sur une solution plateforme as a service, donc si on utilise un serveur déployé sur le cloud pour nous et dans lequel on déploie nos propres applications, ce serveur est pour nous hébergé sur une machine virtuelle. Machine virtuelle que l'on ne voit pas a priori, et à laquelle, en tout cas, on n'a pas accès. Quel est l'intérêt de cette solution de stockage? L'un de ses intérêts, c'est son caractère élastique. C'est-à-dire que si notre application commence à passer en surchauffe, si de nombreuses requêtes viennent la solliciter, l'hébergeur cloud va pouvoir la passer d'un serveur à l'autre, la changer de machine virtuelle ou la déployer sur plusieurs machines virtuelles de façon transparente pour moi. Cela fait partie du service offert par l'hébergeur de solutions de type plateforme as a service. De même, en cas de sous-régime, si mon application est très peu utilisée, le serveur et l'application peuvent être mis en réserve passivée en quelque sorte et réactivée à la demande si des requêtes reviennent. Ce mode de fonctionnement élastique permet essentiellement d'économiser de l'argent, de la facturation, puisque l'idée est de ne payer que ce que l'on utilise effectivement. Donc le point qui nous intéresse ici, c'est que le serveur et son application peuvent changer de machine virtuelle à la demande, voire quitter leur machine virtuelle et se retrouver entièrement passivés. Mais dans ce cas, que se passe-t-il avec le système de fichiers? Que se passe-t-il si mon application a créé des fichiers sur le système de fichiers du serveur sur lequel elle était? Eh bien, tout simplement, dans la mesure où mon application peut changer de serveur, le système de fichiers peut changer également d'un moment à l'autre et sans crier gare. Ce qui signifie que si j'ai écrit un fichier le matin dans mon application, il se peut très bien que je ne sois pas capable de le relire le soir, tout simplement parce que ce fichier se trouve sur un disque ou sur un disque virtuel qui n'est plus le disque sur lequel mon application est installée. Mais que se passe-t-il alors avec les sauvegardes que j'ai faites dans ce fichier? Eh bien, la réponse est simple, ces sauvegardes sont perdues et je n'ai aucune chance de jamais pouvoir les retrouver. Donc, comme nous sommes dans une solution PaaS, écrire des données sur un système de fichiers est quelque chose qui n'a tout simplement pas de sens et qui ne doit surtout pas être fait. D'ailleurs, certains hébergeurs interdisent l'accès à l'API Java.io et donc interdisent de ce fait l'accès au système de fichiers local. Il est tout simplement interdit d'écrire des fichiers sur le système de fichiers. On pourrait penser que la solution infrastructure as a service n'a pas cet inconvénient puisqu'il s'agit d'une machine virtuelle qui possède son propre système de fichiers. En fait, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que cette machine peut être complètement virtualisée, y compris son système de fichiers, qui peut très bien ne vivre qu'en mémoire sans avoir de réelle image sur aucun disque. Ce qui signifie que si j'écris des données sur ce système de fichiers en mémoire et si la machine physique qui fait fonctionner mon serveur vient à planter, les données que j'aurai écrites seront définitivement perdues. Évidemment, c'est quelque chose que je veux absolument éviter. Donc même dans le contexte d'une solution infrastructure as a service, il est formellement déconseillé de sauvegarder des données critiques dans des fichiers localement à la machine sur laquelle je suis. Que je sois en solution infrastructure as a service ou plateforme as a service, mes données critiques statiques ne doivent pas être enregistrées sur le système de fichiers. Que cela concerne-t-il si je fais un rapide catalogue de ce que j'écris par défaut sur le système de fichiers? Examinons les éléments que l'on écrit en général, quelquefois de façon implicite, sur un système de fichiers. Les premiers éléments, ce sont les logs de mon application, les fichiers de journalisation, qui naturellement sont écrits sur le système de fichiers par le serveur d'application lui-même. Le deuxième élément auquel on peut penser, un peu atypique, ce sont mes files d'attente JMS. Nous n'avons pas parlé de JMS dans le contexte des applications Java EE. GlassFish écrit ses files d'attente JMS par défaut sur le système de fichiers. Et puis, plus explicitement, il y a tous les fichiers de ressources statiques de mon application, au premier rang desquels les images, les fichiers audio, par exemple au format MP3, les vidéos au format MP4, etc. De quelle solution est-ce que je dispose pour ces trois problématiques? En fait, évidemment, ces problématiques ont été analysées. Pour mes fichiers de journalisation, je peux m'adresser à des services cloud de récupération, d'enregistrement pérenne et sécurisé et d'affichage de mes données de journalisation. Pour mes files d'attente JMS, je peux configurer, en l'occurrence GlassFish, pour qu'il écrive ces files d'attente en base de données directement plutôt que les écrire sur le système de fichiers. Je peux également utiliser des services cloud spécifiques et Microsoft Azure a dans son catalogue ce genre de services pour m'adresser à des files d'attente qui sont accessibles en JMS mais non implémentées au niveau de mon serveur d'application. Et pour mes fichiers de ressources statiques, je vais utiliser un système de stockage qui est propre au cloud et que l'on appelle le système de stockage en blob. Blob est un terme qui vient des bases de données, qui signifie Binary Large Object, et d'une façon générale, les objets qui représentent des données non structurées et que l'on veut stocker de façon pérenne et sécurisée. Microsoft Azure expose une fonctionnalité de stockage de données en blob qui s'appelle l'Azure Blob Storage et qui est activée par défaut lorsque je crée un compte Azure tel que le compte de test que nous avons créé pour héberger notre application GlassFish. D'une façon générale, cette solution permet de stocker des données non structurées, donc de type blob, qui peuvent avoir des tailles arbitrairement grandes ou à peu près, en tout cas des tailles de l'ordre du téraoctet, mais qui commencent à des tailles beaucoup plus modestes, de l'ordre de quelques caractères. Je vais pouvoir accéder à ces données de plusieurs façons, soit en HTTP, soit en HTTPS, et à la création de ces données, je vais pouvoir décider si elles sont publiques et donc accessibles de tout un chacun au travers de HTTP ou HTTPS, ou bien privé et donc accessible uniquement à condition de posséder les bonnes permissions sous forme d'authentification via par exemple des certificats. Comment l'Azure Blob Storage est-il structuré? Je possède un compte Azure qui agit un peu sous forme d'une espèce de container d'Azure Blob Storage. À l'intérieur de ce compte, je peux définir autant de containers blob que je veux. Ces containers portent tous un nom et peuvent donc être accédés soit via HTTP ou HTTPS. C'est au niveau du container qu'agissent les permissions que je peux fixer sur ce container. Donc la notion de public-privé autorisé via des permissions est attaché à ce container et donc sera appliqué pour l'ensemble des données stockées dans ce container. Une fois que je possède mon container, je vais pouvoir créer autant de blocs nommés que je veux à l'intérieur, chaque bloc représentant une unité de stockage, donc par exemple une image qui pourrait être un fichier audio, un fichier vidéo, des éléments textuels, des chaînes de caractères, etc. De quelle façon puis-je accéder à ces blobs, à ces blocs de données non structurées? J'ai en fait deux modes d'accès principaux. Un premier mode d'accès via IHM et le site de Microsoft Azure référence de nombreux outils qui permettent d'accéder au contenu de mes blobs via ces IHM. Et également par API, en utilisant l'API Azure fournie par Microsoft et dont les patterns se trouvent sur le compte GitHub dont nous avons déjà parlé, et qui s'appuie sur le SDK fourni par Microsoft dans le cadre de son offre. C'est cette deuxième solution, accès par API, que nous allons mettre en œuvre dans notre application pour associer des images à nos musiciens.